Dimanche se joue au Venezuela une élection présidentielle plus que contestée en 2013. L'actuel président, Nicolas Maduro, était désigné par son défunt prédécesseur Hugo Chavez pour prendre la tête du pays. Aujourd'hui, il est candidat à sa réélection alors que le pays est en crise. L'opposition veut boycotter le scrutin. La communauté internationale a fait savoir qu'elle n'en reconnaîtrait pas les résultats, les conditions d'un vote démocratique n'étant pas réunies. Bonjour Paula Vasquez, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Alors peut-être pouvez-vous tout d'abord nous rappeler dans quelles conditions se déroulent ces élections que l'opposition veut donc boycotter ?
Les mots boycott me posent toujours problème car cet appel à l'abstention, il est accompagné d'une série d'actions qui sont extrêmement contestables de la part du gouvernement. C'est-à-dire que l'agenda électoral a été en permanence négocié dans un contexte dans lequel le gouvernement n'a aucune légitimité pour convoquer les élections. C'est-à-dire on a remanié dans une profonde crise politique et sociale, les calendriers électoraux et les négociations qui avaient été menées en République dominicaine visaient à trouver des solutions, surtout de remanier la commission électorale et de garantir la présence d'observateurs internationaux. Et même les machines, parce que les votes au Venezuela s'est fait par voie électronique, même l'entreprise qui garantit les machines dit qu'il n'y a aucune possibilité d'éviter la fraude. Donc c'est pas un boycott, c'est une sorte de cohérence minimum qu'il fallait avoir dans les conditions actuelles de la réalisation même des élections.
Bon alors, aujourd'hui, Nicolas Maduro, qui a donc succédé à Hugo Chavez, Hugo Chavez qui était resté à la tête du pays pendant 14 ans, Nicolas Maduro se présente. Qui finance aujourd'hui ces élections? Quel est l'état des forces en présence pour la Vasquez?
C'est une excellente question, surtout qui finance la campagne de Henry Falcón, cet outsider qui vient donc profiter d'un éclatement de l'opposition plus traditionnelle, pas traditionnelle, mais la plus récente ou au moins la plus cohérente et démocratique, et c'est celle de la table d'unité démocratique. Donc, d'où sort Falcón? Falcón, c'était au tout début quelqu'un qui accompagnait Chavez, c'est un militaire, il vient de l'armée des terres, et il a été donc chaviste au début, et après il passe, et il est gouverneur de l'État de Lara pendant quelques années. Et donc il a perdu dans des conditions très bizarres les élections en 2017, des élections qui étaient déjà très mises en cause par l'opposition. La réalisation de ces élections ont été complètement chaotiques et arbitraires. On voit la carte électorale et il y a des irrégularités énormes. Donc Falcón apparaît et se lance comme candidat sans qu'on sache vraiment à qui il représente et comment il finance sa campagne qui a été extrêmement forte. Et ça a étonné tout le monde, en fait, parce que les autres opposants vénézuéliens sont dans des très mauvaises conditions pour faire quoi que ce soit. Il y a certains qui sont en prison, il y a d'autres qui sont empêchés de participer par la voie juridique parce qu'ils ont des procès, et il y a d'autres qui sont tout simplement en exil. Donc, d'où sort Falcón? C'est une excellente question. Hier, la culmination de la campagne, la fermeture de la campagne a été complètement triomphale et assez étonnante de la part de Maduro. Il y a eu même Maradona qui est venu danser la salsa avec Maduro. Donc, c'était un acte assez impressionnant et un peu hors réalité, car la situation sociale et économique et de santé dans cet état de hyperinflation et récession profonde, parce qu'on est dans des indicateurs négatifs.
Alors,
partout.
Justement, Paula Vasquez, parce que le Venezuela est un sujet hautement polémique, c'est-à-dire qu'on accuse les uns les autres de faire de la propagande. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a deux véritables certitudes sur la situation économique précaire du pays, sur l'émigration, puisque d'après ce qu'on a pu lire, je l'ai lu dans le New York Times, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui émigrent dans des conditions évidemment très difficiles. Est-on sûr de cela?
Ce qui est sûr, c'est que l'abstention va être autour de 70%. Ce qui est sûr, c'est que le programme économique de Falcón ne va pas sortir le Venezuela de cette crise, non plus celui de Nicolas Maduro.
Ça n'est pas la question que je vous ai posée, Paula Vasquez, pardon. Ça n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce qu'on est certain aujourd'hui que le Venezuela est dans une situation extrêmement difficile? A-t-on des preuves? Ou bien s'agit-il de propagande de part et d'autre sans d'ailleurs...
Ah, c'est qu'il y a des doutes par rapport à la situation humanitaire vénézuélienne, c'est ça?
Je vous posais la question sur cette situation, absolument.
Oui, oui. Non, c'est que ça me paraît assez incroyable qu'encore aujourd'hui, on ne puisse pas croire... C'est la pire crise de l'histoire républicaine du pays, et la preuve, c'est que même les personnes qui adhéraient à la révolution bolivarienne sont en train d'émigrer, parce que tout le monde est en train d'émigrer. Mm-hmm. En fait, il y a 4 millions de personnes qui ont quitté le pays. Bien évidemment, il y a des personnes aussi qui ont soutenu Chavez. Donc, bien évidemment, les indicateurs de santé sont effrayants, parce qu'il n'y a pas d'accès aux médicaments, parce que tous les systèmes d'importation... Parce que Chavez a accentué, et Maduro aussi, encore plus, la dépendance de la rente économique, de la rente pétrolière, et la situation de l'industrie pétrolière vénézuélienne, elle est dramatique, elle produit moins de la moitié qu'en 98. Donc, si jamais le pétrole monte, comme le président de Total le disait hier dans les médias français, si ça arrive à 100 $, pour les Vénézuéliens, ça aura aucune incidence, parce que la compagnie nationale pétrolière, elle est en faillite et il y a un embargo de ses actifs dans certaines régions par rapport à ses raffineries, par rapport aux tanks même de pétrole qui ne peuvent pas quitter les mers vénézuéliennes, les eaux vénézuéliennes, à cause de l'embargo des ConocoPhillips.
Bon, alors donc ça c'est sur la situation.
C'est un drame inimaginable.
Donc ça c'est sur la situation économique, sur la situation politique. Vous avez décrit ce qu'il faut bien appeler une farce. J'ai même lu que Maduro avait promis une récompense aux électeurs qui viendraient voter, c'est ça?
Ben, jamais le clientélisme n'a été si, si peu pudique. Jamais. C'est-à-dire, il y a des bonus dans la distribution de la nourriture. On est en train, c'est une politique du ventre, mais de la manière la plus flagrante et visible. Et les gens sont désespérés pour survivre. Donc, il y a cette carnet de la patrie, ça s'appelle comme ça, la carte de la patrie, un carnet. C'est comme une carte bleue qui vous permet donc d'acquérir, même pas d'acquérir les cartons de nourriture que les gouvernements distribuent, et que parfois c'est le seul accès à la nourriture qui ont les gens. C'est une population dans laquelle les enfants sont en train de mourir, par exemple, toutes les machines de dialyse des hôpitaux publics vénézuéliens sont en panne. Il y a 1000 dans les pays, ils sont tous en panne. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un enfant et les malades rénaux, et enfants ou pas enfants d'ailleurs, c'est toutes des machines. Ben, ils meurent. C'est une condamnation à mort de souffrir d'une maladie chronique au Venezuela. Et c'est pour ça qu'on voit la migration qui se fait surtout des milieux populaires en ce moment, qui traversent la frontière, pas seulement en Colombie, mais également dans un camp de réfugiés qui est installé dans la frontière au Brésil.
Donc c'est une situation...
C'est factuel, les faits sont là. Enfin,
Merci beaucoup, Paula Vasquez, de nous avoir décrit la situation du Venezuela à la veille donc d'élections présidentielles qui, à vous suivre, ne vont pas changer grand-chose.